Bonjour à vous. Bonjour d'être venus aussi nombreux pour écouter pendant une heure et demie cette histoire de la Commune de Paris, une histoire bien peu racontée dans les livres d'école. Ici, c'est le groupe La Canaille pour répondre à la question. Nous sommes des amateurs à 250%, issus d'un village qui s'appelle Le Viala du Tarn, dans le sud Aveyron, et l'ensemble du groupe a décidé de s'emparer de cette histoire, de cette triste et heureuse histoire aussi, parce qu'elle a posé des jalons pour le futur, pour vous la raconter, pour qu'elle vous donne envie de serrer les poings, pour qu'elle vous donne envie de poursuivre cet éternel combat qui, depuis la nuit des temps, voit des femmes et des hommes lutter pour un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Parle peu de cette Commune de Paris qui va du 18 mars 1871 au 28 mai 1871. 1789, révolution bourgeoise. 1848, tentative de révolution ouvrière, mais en vain. Mais ce qui fera écrire à Victor Hugo, le cadavre est à terre et l'idée est debout. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'autre, se proclame empereur. En 69, quelques années après, 17 femmes et hommes, dont un enfant, sont tués lors de la grève des mineurs d'Aubin en Aveyron par les soldats de l'empereur. Pour échapper à cette tempête ouvrière qui monte, incapable de maintenir la paix sociale, Napoléon a une idée. Il va déclarer la guerre à la Prusse en juillet 1870. Le peuple parisien l'appelait Badingue, ou alors le sire de Fichtoncamp, et il est fait prisonnier. Les Prussiens sont aux portes de la capitale et ils occupent le nord de la France.
Un jour pour 30 jours héroïques, il vit un pétard éclater. Mais il en eut une telle colique que tout le monde en fut ennuyé.
Et le 4 septembre 1870, c'est la République qui est proclamée à Paris. Mais attention, c'est un gouvernement bourgeois de défense nationale qui est nommé, en attente d'élections avec mission de continuer la guerre. Ils ont plus peur de la plèbe parisienne que des Prussiens. Il a donc besoin, ce gouvernement, de négocier un armistice avec ces Prussiens tout en faisant semblant de leur faire la guerre aux portes de Paris, sinon les Parisiens ne vont pas aimer. Surtout que les Parisiens, eux, sont résolus à ne pas se laisser faire. Imaginez-vous, à l'intérieur de Paris, il y a 200 000 soldats, qui pour le moment ne deviennent pas des Versaillais, mais sont 200 000 soldats français, 250 000 combattants civils armés qui composent la garde nationale, et en face, il n'y a que 175 000 Allemands ou Prussiens qui assiègent Paris. Dès le mois d'octobre 1870, un mois après, les Parisiens y voient clair. Ils se sentent trahis. Au comité de vigilance créé dans les quartiers dès le 5 septembre viennent s'ajouter la multiplication des nombreux clubs, des nombreux lieux de parole où la parole se libère. Paris, qui a des soldats et des armes, ne veut pas capituler.
Vive la paix, la France est aux enchères. Demain bourgeois, vous pourrez regoinfrer. Bismarck attend au château de Ferrières. Que dans Paris, Thiers lui dise d'entrer. Favre griffonne un dernier protocole. Proche renonce à son plan incompris. Allons Brébant, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va vendre Paris. Allons Brébant, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va vendre Paris.
Nous sommes en 1871, année funeste pour le mouvement ouvrier. Et c'est le 18 janvier 71 que l'Empire allemand est proclamé au château de Versailles. Alors, les soldats parisiens, convaincus qu'il faut continuer la guerre contre les Prussiens, décident de quitter cette garde nationale aux mains de l'État et de devenir autonomes, et ils forment la garde nationale fédérée. Et puis en même temps, il y avait à cette époque-là des canons dans Paris. Et ces canons, certains avaient été achetés par souscription. Les Parisiens disaient « c'est nos canons ». Donc, ils rassemblent des canons, ils les protègent, ils les surveillent la nuit et ils les mettent sur certaines places. Alors là, Thiers, le gouvernement n'apprécie pas du tout. Et il envisage une tentative d'envergure pour récupérer ces fameux canons. Ça commence, c'est le début de la Commune de Paris. Dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, Thiers et son gouvernement envoient la troupe s'emparer de ces canons. C'est une provocation pour les Parisiens. Dès 6 heures du matin, du côté de Montmartre, certains Parisiens se rendent compte de la manœuvre et battent leur appel, faisant sonner le tocsin et dressant des barricades. Les soldats pactisent avec la foule. Leur général, le général Lecomte, est arrêté. Et avec quelques-uns de ses officiers, il est conduit au siège d'un comité de vigilance du quartier, rue des Rosiers. Il y sera fusillé avec un autre Versaillais qui sera reconnu dans la foule. Il y sera fusillé par ses propres soldats. En fin d'après-midi, l'hôtel de ville, la préfecture de police, l'imprimerie nationale et de nombreux autres sites, sont aux mains des communards, sont aux mains des Parisiens fédérés.
C'est au moment où nous enterrions le pauvre Charles Hugo qu'avait lieu le drame de la rue des Rosiers. À la sortie du cimetière, la triste nouvelle tintait déjà dans l'air assombri. En même temps, les barricades ébauchées le matin devenaient formidables et s'armaient de canons, de mitrailleuses et se hérissaient de baïonnettes au bout de fusils chargés. Les passants chuchotaient des paroles d'alarme et filaient vite. Les boutiques se fermaient et main café n'était qu'entrebâillé. Ça sentait la poudre et ça fleurait le sang. Paul Verlaine, Mes souvenirs de la Commune.
Il y a quelques flottements chez les communards, les futurs communards, qui expliqueront que les portes de Paris restant ouvertes, le gouvernement ainsi que la plus grande partie des soldats de la troupe régulière et son état-major se replient tranquillement vers Versailles sans rencontrer d'opposition. À Paris, très vite, des élections sont organisées dans les arrondissements et les résultats en sont connus le 27 mars 1871. 90 bonhommes vont être élus. Ils forment le conseil de la commune. On y rencontre des ouvriers, des artisans, des journalistes, des employés, des avocats, des médecins et aussi des artistes. Voici ce qu'en disait le poète Lecomte de Lisle, opposant à la commune.
Ils les accusent d'appartenir à la ligue de tous les déclassés, de tous les incapables, de tous les envieux, de tous les assassins, de tous les voleurs, mauvais poètes, mauvais peintres, journalistes manqués, romancier de bas étage.
Le nom de ces romanciers de bas étage, les noms sont présentés à la population parisienne le lendemain, 28 mars 1871. Ce sera le jour de la proclamation officielle de la Commune de Paris devant l'hôtel de ville qui est lui-même paré de drapeaux rouges. Dès le 29 mars, les premiers décrets sont pris. Abolition de la conscription. 3 mois de loyers qui sont dus par les locataires aux propriétaires qui sont purement et simplement annulés. Les jeux de hasard interdits. Et, pas encore les femmes, mais les étrangers sont admis au conseil, peuvent siéger au conseil de la commune. La commune envisage et rêve et voit l'utopie. Elle dit dans le journal officiel du 1er avril, la commune à venir s'administrera comme elle l'entend, qu'elle espère aussi, parce qu'elle y croit, qu'il en sera de même dans les autres communes de France, mais aussi dans les cantons et les départements, et qu'un jour, toutes ces communes autonomes pourront se fédérer. Nous sommes le 2 avril 1871. Les élus de la commune se mettent d'accord à l'unanimité sur un décret qui ne concerne que la gestion communale sur Paris, mais qui, dans l'histoire, aura une destinée nationale tant il est d'avant-garde. Ce jour-là est pris le décret sur la séparation de l'Église et de l'État. Pendant ces discussions, les Versaillais organisent leur armée. Alors, ce premier dimanche d'avril, les Versaillais prennent l'initiative et attaquent du côté de Courbevoie, en banlieue. 12 fédérés sont tués au pied du fort du Mont-Valérien. Les Parisiens apprennent la nouvelle, ils veulent en découdre. Ils lancent une action militaire qui, malheureusement, va échouer. Après l'échec de la sortie militaire communarde du dimanche 2 avril, le conseil de la commune décide de ne plus tenter d'attaquer les Versaillais, plutôt de défendre la capitale, et se concentre sur les décrets. Quatrième semaine du Paris communard. Au niveau social, le conseil vote l'adoption du décret instituant une commission d'enquête pour le recensement des ateliers abandonnés par leurs patrons et la constitution de coopératives ouvrières. C'est là un geste d'importance dans la voie de la remise en question du principe de propriété privée, avec en arrière-plan le concept de gestion ouvrière, même d'autogestion. Paris communard, cinquième semaine. Sur les remparts, dans les bastions, dans les forts, les femmes, les hommes de la garde nationale fédérée, véritable armée populaire, guette jour et nuit et consolide les fortifications. Il faut imaginer des canonnades sans arrêt du matin au soir où les Versaillais sont en train de pilonner à l'intérieur de Paris. On a l'impression de revivre le siège des Prussiens. Nous sommes en 1871. Les ouvriers boulangers crient « Victoire !» Ils ont été entendus par la commune. Le travail de nuit est supprimé par le décret du 20 avril. Et c'est la canaille qui est à l'action.
Vieille cité française existe, race de fer. Ton âme, comme une fournaise, a de son feu rose la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, au palais, ils n'ont qu'un tout dit. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille, le jour et quelquefois les nuits. C'est la canaille,
eh bien j'en suis.
C'est l'artiste, c'est le bohème qui sont soupés, rime rêveur, à son état, celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est un crédit qui fait ripailler, qui loge et qui la déshabille.
C'est la canaille, eh bien j'en suis.
C'est l'homme à la face terreuse, au cœur maigre, à l'œil de hibou, aux bras de fer, aux mains nerveuses, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se jouant de votre mépris.
C'est la canaille, c'est la canaille, c'est la canaille, et bien j'en suis.
Cette canaille dont parle Alexis Bouvier dans sa chanson, la chanson que vous venez d'entendre, aura en 2 mois d'existence pris des mesures économiques et sociales d'ampleur et d'envergure. La preuve.
Remis en exploitation des ateliers abandonnés afin de s'attaquer au problème du chômage.
Accorder la priorité aux associations ouvrières pour les marchés de l'État.
Interdit les amendes et les retenues sur salaire pour les ouvriers.
Supprimer le serment politique et professionnel pour toute condition d'embauche de fonctionnaires.
Verser des pensions aux blessés de guerre, aux veuves, mariées ou non, et aux orphelins.
Interdit le cumul des traitements pour les fonctionnaires publics.
Attribuer une pension alimentaire pour les femmes mariées qui veulent se séparer de leur mari.
Fermer les maisons de tolérance et travailler à réinsérer les prostituées dans la vie sociale.
Donc des décrets intéressants, passionnants, fabuleux, innovants pour l'époque, mais l'œuvre de la commune ne se limite pas à une série d'actes ou de décrets. C'est une révolution aussi dans les comportements, dans les clubs, sur les places, la parole se libère. Les femmes s'impliquent dans la vie sociale et politique. Les quartiers s'auto-organisent. Les communards ont l'utopie pour moteur. L'horizon de leurs désirs ne se limite pas à un avenir proche, mais plutôt à un changement radical de société. Plus fraternel, plus social, plus juste. Nous sommes le dimanche 21 mai, début de la semaine sanglante, début de l'entrée des forces versaillaises dans Paris. C'est une magnifique journée de printemps qui s'annonce. Et pendant ce temps, au sud-ouest de Paris, par les portes de Saint-Cloud, Passy et Auteuil, vague par vague, les Versaillais pénètrent, investissent le 15e et le 16e arrondissement à 11h du soir. Le 21 mai, ils sont près de 70 000 dans Paris. Petit à petit, les canons versaillais s'arrêtent de tirer. La nuit tombe. C'est une nuit de printemps, étoilée et douce. Lundi 22 mai au matin, 2h du matin, des colonnes de soldats avancent dans la nuit. À 5h du matin, les canonnades reprennent, prenant pour cible le centre de Paris. La résistance communarde va se disperser, s'éparpiller dans les arrondissements. Dans chaque quartier, dans chaque rue, Dans l'Est, dans le Centre, vont s'élever d'innombrables barricades. Alors l'espoir renaît chez les communards parce qu'ils sentent que la progression des Versaillais... Mais qu'est-ce qu'elle est lente ! Ils sont rentrés dimanche soir et ils en sont encore, ils ne sont pas arrivés au Trocadéro. Mais cette progression lente, elle n'est pas due à la réaction communarde. C'est un souhait, c'est une volonté de tiers qui veut éradiquer toute cette graine de rebelles. Il doit prouver pour l'opinion française que la bataille est rude, que la bataille est difficile. Il sait qu'il va en retirer des lauriers. Et puis, il faut que cette armée française avance avec méthode pour prendre le temps d'éradiquer ces rebelles qui, depuis 48, n'en finissent pas d'empoisonner la vie des dirigeants. Donc méthode, donc efficacité, sans précipitation, pour une répression qui laissera date dans l'histoire du peuple de France. L'armée avance, contourne la barricade, arrête les combattants. Le gros de la troupe continue d'avancer. Quelques soldats restent derrière la barricade, fusillent les communards arrêtés. Et puis on continue. Pour le moment, c'est ça qui se passe. Mais dans quelques jours va venir le temps des fouilles de maisons, le temps des collectes de dénonciations, puis le temps des cours martiales, puis le temps des exécutions sommaires. Pour l'instant, l'armée de Versailles occupe le terrain, mais avec méthode et sans précipitation, avec cruauté.
Au mur !
Disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur.
Au mur ! Qu'avez-vous fait ?
Voici deux listes avec les noms de 100 coquins, femmes et enfants de communistes, fusillez-moi tous ces gredins.
Qu'avez-vous fait ?
Je suis la veuve d'un officier mort au Bourget, et tenez, en voici la preuve, regardez s'il vous plaît.
Capitaine, la bouche pleine et buvant dur.
Au mur ! Qu'avez-vous fait ?
Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau, car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau.
Mardi 23 mai, dans chaque arrondissement, des barricades s'élèvent. Les enfants participent. Les femmes prennent le fusil comme sur la place Blanche, au bas de la butte Montmartre. En fin de journée, les premiers incendies s'allument. Les premiers sont allumés par les obus versaillais et les suivants aux ordres des communards qui demandent que le feu soit mis aux maisons d'où on leur tire dessus. Les flammes se propagent. C'est maintenant les Tuileries. C'est le Conseil d'État. C'est la Cour des comptes qui sont en feu. Mercredi 24 mai, beaucoup de Parisiens ont passé la nuit terrés dans leur cave. 3h du matin, un petit répit d'une heure, la cadonnade cesse, mais elle repart de plus fort vers 4h. C'est le chaos dans le centre de Paris. Les fédérés, les communards se replient vers le centre et l'est de Paris, où la résistance commence à s'organiser. Dans les quartiers de l'Ouest, aux mains des Versaillais, c'est une froide répression qui continue et se met en place. On pourchasse les fédérés jusque dans les maisons. On arrête les femmes, les hommes, même les plus jeunes. On vérifie si leurs mains ne sont pas noircies par la poudre. 13h, c'est la gare du Nord qui tombe. La bataille est inégale. Peu de temps après, c'est la mairie de 6e qui tombe, qui est aux mains des Versaillais. Le Panthéon aussi. Tout le monde se regroupe autour de la mairie du 11e. La foule grossit. À l'intérieur, des élus de la commune se réunissent, mais à l'extérieur, c'est l'impatience. Les nouvelles des exécutions de leurs camarades pris au Panthéon leur arrivent. Alors, il est à nouveau question du fameux décret des otages.
Toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la commune de Paris sera, sur le champ, suivi de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus et qui seront désignés par le sort.
6 otages sont extraits de leurs cellules et ils sont aussitôt fusillés par un peloton composé de gardes nationaux fédérés volontaires. Ces 6 personnes paient pour les centaines, pour les milliers de communards exécutés depuis le dimanche 21 mai. On est bien loin des 3 pour 1. Nous sommes le 24 mai, dans une chaleur suffocante, sur fond d'incendie, de canonnades, d'odeurs de sang et de poudre. C'est le début de la fin qui s'annonce toute proche. Acculés, les communards voient leur sacrifice comme nécessaire, enfin j'imagine, on imagine à la canaille, afin que l'espoir perdure. Leur victoire sur la peur est une victoire sur les Versaillais. Qui aurait pu penser il y a quelques semaines que de tels choix, de tels actes se poseraient si vite au printemps de cette commune qui ne demandait que qu'à continuer à expérimenter, à créer et à grandir. Qui aurait pu penser aussi que celle qui, à l'époque, n'avait pas le droit de vote, que celle à qui la commune n'a pas accordé de place au sein de son gouvernement, qui aurait pu penser que les femmes prendraient une place prépondérante dans cette lutte révolutionnaire, au premier plan sur les combats, au premier plan sur les barricades, au premier plan offrant leur poitrine aux fusils, alors qu'elles sont acculées devant le mur des fusillés. La commune a fait une chanson qui s'appelle « Jean Misère ». En hommage à ces femmes, la canaille l'a transformée en « Jeanne Misère ».
Ça ne finira donc jamais.
tigre du satellite. Adieu nos chapeaux en Espagne. Avouons ce monde pourri. On en sort, on en sort d'un bagne.
Allez, ça ne finira donc jamais. Ça ne finira donc jamais.
Jeudi 25 mai, le jour se lève. Les soldats versaillais, ils sont 130 000 maintenant à l'intérieur de Paris et ils continuent leur meurtrière progression, rencontrant une sporadique résistance. Nous sommes le 26 mai. Aujourd'hui, il pleut. À 7 heures du matin, les soldats, ils ont déjà pris la place du trône, ce qu'on appelle la place de la nation, et ils avancent vers la place de la Bastille. Celle-ci, lieu de symbole du mouvement ouvrier risquant d'être prise à revers, vite un groupe de fédérés vient pour la défendre. En début d'après-midi, c'est la place de la Bastille qui est tombée. Il ne reste plus que le 20e arrondissement qui résiste, en gros. C'est là qu'on retrouve le plus gros des bataillons de la garde fédérée. C'est encore terre de liberté pour les communards, mais liberté surveillée parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Le petit matin du 27 mai, toujours pluie et brouillard. L'objectif des soldats de Thiers est de prendre le parc des Buttes-Chaumont et d'y faire taire les canons qui sont au point culminant de ce parc. Si un jour vous y allez, c'est quasiment à l'entrée. Ils y arriveront le même jour à 16h. L'attention des soldats se porte maintenant vers ce fameux cimetière du Père Lachaise où, quand vous allez à Paris, vous y voyez le mur des fusillés, mais aussi promenez-vous dans les tombes. Il y a des anonymes, il y a des élus de la commune. Là, dans ce cimetière, sont retranchés 200 communards, des artilleurs. Les Versaillais en commencent le siège. À 6 heures, grand coup de canon, c'est la porte qui cède. Les soldats versaillais s'y engouffrent, alors qu'il se met à pleuvoir, à torrents. Par les chemins des trempés, les soldats versaillais progressent vers les fédérés. C'est un combat quasiment au corps à corps qui s'engage au milieu des tombes et des monuments funéraires. Monuments qui, encore aujourd'hui, en 2023, portent les traces de ces batailles. Alors que la nuit vient de tomber, dans le cimetière du Père Lachaise, la chasse à l'homme se poursuit. Dimanche 28 mai, il a plu toute la nuit, les rues sont détrempées. Dans les allées boueuses du cimetière du Père Lachaise, les combats arrivent à leur terme. Les lignards font la chasse aux derniers artilleurs fédérés entre les tombes. Les derniers communards du côté de Belleville résistent toujours en tenant la mairie. Derrière les barricades, des hommes et des femmes, dont cette fameuse Louise à qui Jean-Baptiste Clément dédiera son poème « Le temps des cerises ». 9h du matin, dimanche 28 mai, l'église de Belleville et la mairie du 20e sont prises. Les batteries versaillaises ralentissent le rythme de leurs tirs. Les intervalles de silence laissent percevoir le crépitement des fusillades. On les entend, elles viennent du côté du cimetière du Père Lachaise, devant ce fameux mur d'enceinte que l'on appelle aujourd'hui le mur des fusillés. Par groupe de plusieurs dizaines, les 147 fédérés rescapés de la bataille nocturne sont fusillés.
Cache les trous de lune. la mitraille, dont les vaincus furent criblés. Bien plus belle que la sculpture des tombes qui bâtit l'orgueil, l'herbe couvre la sépulture d'un mort enterré sans cercueil. C'est qu'un jour que le soleil tombe, comme le sang de mon réveil, ce mur que l'histoire décore, qui saigne encore, c'est le
La commune vit ses dernières heures. Les fédérés n'ont plus un seul canon. Le dernier à tirer fera entendre sa voix du côté de la rue de Belleville. Il est midi. Petit à petit, les coups de fusil sont espacés, les silences de plus en plus longs. En début d'après-midi, le dernier coup de fusil communard est tiré sur la barricade située au carrefour des rues Tourtille et Ramponneau. Mais ce silence ne dure pas bien longtemps. Du côté des prisons de la Roquette se font à nouveau entendre les rafales des mitrailleuses versaillaises. C'est eux qui fusillent.
Le bain de sang que le peuple de Paris vient de prendre était peut-être une horrible nécessité pour calmer certaines fièvres. Vous le verrez maintenant grandir en sagesse et en splendeur. Émile Zola.
Le lendemain, le dernier réduit fédéré, c'est le fort de Vincennes. Il est pris par l'armée régulière. Ça n'est fini des communards. De leur cache pour les plus chanceux, de leur lieu de fusillade pour ceux qui vont mourir, leurs yeux se tournent vers le ciel de Paris qui s'est vidé de ses nuages.
Sauvez, sauvez ! Paris était au pouvoir des nègres. Alphonse Daudet.
Nicolas.
La répression depuis le début de la semaine sanglante, rappelez-vous, c'était juste une semaine, le 21 mai 1871, est et a été impitoyable. Il y a eu les morts lors des combats, les exécutions sommaires sur les trottoirs, dans les jardins. Moi, j'ai travaillé sur le visuel de ce qui restait de la commune et beaucoup de petits jardins qu'on trouve actuellement dans Paris ont été des lieux de fusillades et de fosses communes le temps qu'on trouve un lieu pour inhumer les fusillés. Les historiens dénombrent entre 6 000 et 35 000 communards qui ont été exécutés ou tués lors de cette semaine sanglante. Les communards qui ont réussi à passer entre les mailles du filet se cachent et se tairent. Au pied de la butte Montmartre, rue Mira, se cache Eugène Potier. À l'époque, c'est un jeune dessinateur sur tissu. Et il vient d'écrire un poème. Il va le dédier à un pote à lui qui est élu au conseil de la commune et qui est instite. Il s'appelle Eugène Lefrançais. Ce poème va porter un titre, L'International. Ce n'est que bien plus tard, quelques années plus tard, qu'il sera mis en musique pour devenir l'hymne de la classe ouvrière. Prisonniers sont envoyés en prison vers Versailles, au camp de Satory, évoqué dans nos nombreuses chansons, ainsi que dans les pontons des ports de l'ouest de la France, à Brest, à Lorient, à Cherbourg, à Rochefort, sur l'île de Ré. Jusqu'en 1872, en attente de leur devenir, ils vivent dans des conditions inhumaines. Un grand nombre meurt de maladies ou de leurs blessures, d'autres sont remis en liberté. Nous sommes l'été 1871, c'est l'heure du jugement. les procès débutent dès le mois d'août. Une figure de la commune, Louise Michel, incarcérée à Versailles, demande à être fusillée. Lors de son procès, elle est digne et exige même la mort.
Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance et je dénoncerai à la vengeance de mes frères, les assassins de la commission des grâces.
Elle est condamnée à être incarcérée et déportée plutôt en Nouvelle-Calédonie avec 2000 autres communardes et communards. Le 11 juillet 1880, presque 10 ans après, l'amnistie est enfin votée suite à une forte campagne de soutien aux communards emprisonnés et exilés, et c'est Victor Hugo qui a été un des initiateurs. Aujourd'hui, pour se rappeler de cette commune de 1871, il reste cette magnifique chanson « Le temps des cerises ». Cette chanson est dédiée à la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue de la Fontaine-Roi, le dimanche 28 mai 1871. Avant de vous écouter, vous, public, chanter cette chanson, je voudrais qu'on applaudisse Lisette Van Beek, qui est la chef de chœur de notre groupe La Canaille. Et pour terminer, on voudrait vous ajouter que l'œuvre de la commune, pour nous, ne peut pas se lire uniquement sur les 72 journées de son existence. On pense qu'elle doit s'analyser à travers le prisme de son futur, la création à venir des syndicats ouvriers, des bourses du travail, la séparation de l'Église et de l'État, les premières mesures de protection du travail, le droit de vote des femmes, puis au XXe siècle, l'apparition des mouvements collectifs, horizontaux et anti-hiérarchiques, un peu partout sur la planète, au Chiapas, devant Wall Street, à Madrid, à Hong Kong, à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens, à Viviers dans l'Aveyron, à Bure, à Sainte-Soline et ici, aujourd'hui, sur le Larzac. La commune n'est pas à copier ni à imiter, mais elle peut être source d'inspiration pour l'avenir, pour preuve et pour boucler la boucle. Je pense que ça parlera peut-être aux plus anciens qui sont là. Rappelez-vous que c'était ici, à quelques kilomètres, au Rajal del Gorp, en août 1973, alors qu'il y avait la marche des paysans du Larzac et des ouvriers de l'Ippe, qui avait été organisée par les paysans travailleurs. Le responsable des paysans travailleurs s'appelait Bernard Lambert. Les paysans travailleurs deviendront ensuite la Confédération paysanne. Et bien, ce même Bernard Lambert avait fait un lien entre le Larzac et la Commune de Paris. C'est à lui que l'on doit ces phrases. Jamais plus, c'est ainsi qu'il a fini son discours, jamais plus les paysans ne seront des Versaillais. À vous, public, on vous accompagne pour la cour, le temps des cerises.
chœur, la canaille, les musiciens, Christian à batterie, Armand à la basse, Claudine à l'accordéon, Laila violin, Rémi à la flûte, la belle voix d'Hélène, Joseph Hula, les gens d'ici qui ont fait le sono et la lumière, et merci beaucoup, et tous les bénévoles. Merci beaucoup et merci à vous.